Bloc Invest. Parlons investissement tout simplement.
Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bloc Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Et comme promis, je te fais un deuxième podcast avec une semaine d'intervalle. Profites-en parce que je sens que ça ne va pas durer. Je bosse vraiment beaucoup en ce moment. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler du karma, de ces petites choses dans l'investissement qui font que un petit détail qui fait que tu risques de tout perdre du jour au lendemain à force de magouiller. Avant toute chose, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier, je vis uniquement de mes biens immo. Alors, attention, petit disclaimer, si tu n'as pas suivi le podcast précédent, en ce moment, je me suis remis à travailler, mais à partir de fin novembre 2023, c'est terminé, je me remets à vivre que de mes investissements immobiliers. Attention, c'est pas histoire que j'avais besoin d'argent pour ça, c'est juste que je m'ennuyais un tout petit peu parce que je n'avais plus aucun projet. Au-delà de tout ça, si tu as des questions à me poser, tu n'hésites pas à me les envoyer sur Instagram, je serai très ravi d'y répondre. Et pour information, je n'ai aucune formation à te vendre dans ce podcast ou ailleurs en fait. Je fais ça vraiment pour le kiff et parce que ça me permet d'apprendre, d'effectuer mes propres recherches et ensuite j'enregistre des podcasts et grâce à ça, je suis à jour. Bien, donc parlons un peu du karma. Pour bien commencer sur ce thème-là, je vais te parler de Sabri Dridi. Le karma, du coup, il s'est abattu sur moi et non pas sur lui. Si tu n'as pas suivi les épisodes précédents, j'avais un locataire, en gros, qui ne m'a pas payé pendant un an sur un local commercial. Et là, c'était mon erreur, l'erreur que j'ai commise, c'est de le choisir sans vérifier. Et oui, alors même si c'est une agence qui l'a fait rentrer, juste avant, j'avais son nom et son prénom. Et malheureusement, 4 heures après avoir signé, j'ai appris qu'il ne fallait pas que je le fasse rentrer. Donc voilà, ça c'était ma petite piqûre de rappel. Cette piqûre de rappel, je peux te donner un chiffre, ça m'a coûté 10 000 euros. Voilà, bon, je te compte pas les poussières, mais en gros, après jugement, après les frais que j'ai eus, les sommes qu'il me doit, en gros, j'ai perdu en tout et pour tout 10 000 euros. Enfin, attention, peut-être un peu moins, c'est parce qu'il a commencé à me rembourser la somme de, tiens-toi bien, 2,65 €. Oui, alors il n'y a pas longtemps, j'ai reçu 65 centimes, puis 2 jours après 1 euro, encore 2 jours après 1 euro, donc voilà. Donc l'un de mes associés a calculé, à ce rythme-là, il me faudrait un peu moins de 1000 ans pour être remboursé, voilà. Pour commencer sur le karma, on peut dire qu'il s'est abattu sur moi. Bon, c'est quelque chose un peu de normal, j'ai envie de dire. Ici, il n'y a pas vraiment de justice en France, je m'en souviendrai et crois-moi que la personne maintenant que je choisis, je ne fais plus les mêmes erreurs. Et le dernier contact que j'ai eu avec mon fameux locataire Sabri Dridi, il faut que tu saches que son groupe Facebook, en gros sa page du Tacos est toujours active à ce jour, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast. Et il n'y a pas longtemps, j'ai décidé d'aller voir s'il avait publié autre chose, on ne sait jamais, et effectivement il avait publié quelque chose d'intéressant, c'est soi-disant deux personnes du village qui l'auraient volé, alors soi-disant deux iPhone 13, une tablette et 500 euros en liquide, comme par hasard. Bon, étant donné que c'est un mythomane compulsif, je me doute que c'est faux, ces gens-là ont peut-être volé quelque chose ou alors ont récupéré leurs affaires tout simplement. Et au-delà de tout ça, quand j'ai vu la publication, il y a des centaines de personnes qui sont abonnées à cette page pour savoir ce qui se passe. Et quand j'ai vu ça, j'ai décidé de publier moi aussi mon petit commentaire. Donc là, il y a une quarantaine de commentaires en dessous de cette page. Et j'ai décidé de mettre un joli commentaire qui malheureusement n'est pas resté plus de 24 heures, mais qui a eu le temps de faire son petit effet. Donc je te lis le commentaire que j'ai laissé. Bon, je te le dis de mémoire parce qu'il a supprimé. Donc je lui ai écrit quelque chose du style remettons, en parlant de voleurs, remettons l'église au centre du village. Vous trouverez en pièce jointe la décision du tribunal qui prouve que Sabri Dridi m'a volé 10 000 euros. Et en dessous, j'ai mis la dernière page de l'avocat avec toutes les lignes avec l'énumération ligne par ligne de l'argent qu'il me doit et le pourquoi il me doit telle somme d'argent. Et le total dépassait 9 000 euros, on était dans les 10 000 euros. Donc là, bizarrement, il n'y a pas grand monde qui a commenté. J'ai mon associé qui m'a dit que dans la nuit, en fait, il avait répondu à me répondre en disant que j'étais un escroc. Et finalement, il l'a supprimé. Et ensuite, j'ai d'autres personnes qui sont amusées à le commenter, qui ont félicité les soi-disant voleurs. Enfin bon. En gros, il y a des gens qui lui ont fait complètement péter un plomb sur Internet. Voilà, on peut dire que c'est le karma. Pour rester sur le même thème, alors je vais prendre des pincettes sur les prochaines choses que je vais dire parce que tout n'est pas réglé au niveau du notaire, mais j'ai une personne qui est connue, nous, dans la région, pour un peu magouiller. Les agents immobiliers m'ont prévenu, attention, lui... il a l'air réglo comme ça, mais dès qu'il pourra te la mettre à l'envers, il le fera. Voilà, c'est une personne qui a cette réputation. Nous, on la connaît très bien. Quand on voit des papiers qui passent au niveau de la mairie, parce que je suis au conseil municipal, donc quand je vois les papiers, eh ben, y a deux, trois petites choses, en fait, des éléments qui nous font tilter, ou alors il y a des déclarations qui ne sont pas faites pour économiser des impôts, ou alors ils récupèrent l'argent au lieu de ce soit des sociétés, ce sont des associations. Voilà, tu vois, c'est plein de petits trucs où il est dans une zone grise, des choses qu'il n'a pas le droit de faire, mais pour le poursuivre, il faut vraiment le prouver, il faut un peu se démener. Cette personne, alors tiens-toi bien, a réussi, si tu veux, à amadouer des gens et à acheter des terres qui sont constructibles au prix du non constructible. Donc, si tu n'es pas au courant, en fait, quand tu achètes un terrain, tu peux avoir plusieurs prix. Si c'est du non constructible, ça veut dire que c'est un terrain agricole, donc ça vaut beaucoup moins cher que si c'est constructible, parce que là, évidemment, tu peux mettre ta maison, et sachant que, en plus, là, on a déjà baissé de 30% les parcelles qui sont constructibles, ça vaut évidemment plus cher. Donc, première étape, cette personne a acheté un terrain au prix du non constructible à une personne, voilà, à un agriculteur assez âgé. Donc, bon, ok, bon, ça c'est son affaire. Et ensuite, lui, son but, c'était de revendre le terrain. Donc, en fait, il a fait exactement comme un promoteur. Il a séparé le terrain, l'a revendu au prix du constructible, donc là on parle de faire plus de x2 au niveau du prix, alors qu'il n'a absolument rien fait. Bon, jusqu'ici tu me diras, bon ben ok, ben, les personnes âgées n'étaient pas au courant, c'est légal, même si c'est immoral. Ok, jusqu'ici on est d'accord. Le petit souci, au-delà de tout ça, c'est qu'il a déjà revendu un terrain, mais disons, l'acte n'est pas encore passé chez le notaire. Là, nous étions en période de vacances, alors au cas où tu n'es pas au courant, si tu n'as jamais acheté, avant que tu achètes, la mairie a un droit de préemption. Le notaire, c'est pour ça qu'en fait en France, ça ne met pas une semaine, mais ça met bien un mois pour que tu puisses acheter au minimum si tu achètes cash, et trois mois si tu achètes avec un prêt. Parce que dans l'administration française, ton notaire doit contacter la mairie et la mairie doit te faire un papier comme quoi tu ne fais pas de préemption, ce qui veut dire qu'en gros, elle ne va pas racheter le terrain au prix auquel la personne voulait l'acheter. Et le petit souci dans tout ça, c'est que l'acheteur a construit une maison sur le terrain alors qu'il ne l'a pas encore acheté. Donc au moment où j'enregistre, la personne n'a toujours pas acheté. Et nous, la mairie, nous n'avons pas envoyé comme quoi nous avions décidé de préempter le terrain. Alors, de base, cette personne-là, le vendeur, avait quelques retards d'impôts, enfin plutôt des déclarations qu'il n'a pas effectuées. Il avait essayé de magouiller, nous l'avons vu. Donc là, pour être vraiment dans le cadre de la loi, nous avons le maire et l'adjoint qui ont fait les papiers pour régulariser tout ça. Donc nous, notre but, c'est juste de régulariser tout ça. Autrement dit, on envoie les courriers pour qu'ils puissent bien payer les impôts au moment où ils recevront la somme d'argent. Et ensuite, on en reste là, on effectue la vente, mais on profite du fait qu'il y ait les vacances pour ne pas donner notre conclusion sur le droit de préemption. Étant donné que c'est des vacances, si on peut le faire patienter et un peu l'emmerder, et oui, c'est le but. On va quand même en profiter parce qu'on ne sait pas quelle est la prochaine magouille que le vendeur va vouloir faire. Mais là, au moment où j'enregistre, il y a quelques jours, sans rentrer dans les détails, ce fameux vendeur a encore fait une autre magouille qui met en péril, en gros, la vie courante, on va dire, du village. Et donc, à la mairie, ça y est, nous avons décidé finalement, à cause de ce tout petit détail, c'est en gros, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, de préempter le terrain. Donc, autrement dit, nous allons racheter le terrain au prix du coup du constructible, au prix du vendeur, mais, petit détail, il y a une maison de construite. Donc ça veut dire que nous achetons un terrain alors qu'il y a une maison. Donc là, je ne peux pas pour l'instant te dire ce qu'il va se passer parce que ça n'est pas encore arrivé. Mais tout ça pour te dire, si tu magouilles au bout d'un moment, si ça commence à se savoir, tôt ou tard, le karma va te rattraper. Et dans ce cas-là, eh bien, la mairie va récupérer au prix du terrain une maison. Alors là, les deux personnes sont en tort. La personne qui a aussi bien qui a construit la maison que la personne qui a vendu. Enfin, même si elle n'a pas encore vendu. Sachant que c'est le genre à mettre des dessous de table pour aller avoir moins cher et tout ça. Je sais très bien comment ça se passe. Là, on sait qu'on va emmerder les deux parties. Bon, évidemment, la mairie, son but, vu que c'est moi qui gère les dossiers de location à la mairie, soit on va le louer, mais je pense qu'on va plutôt le revendre effectivement à la personne qui vous souhaitez acheter. Et si elle ne souhaite pas acheter à la mairie, c'est aucun souci, c'est moi qui m'en occuperai. Moi, tu me donnes un bien pour le prix d'un terrain, t'inquiète pas que je vais gérer le budget pour pouvoir la louer et ça fera des revenus supplémentaires dans la ville. Donc en bref, tout ça pour dire que même si tu magouilles, même si tu fais des trucs qui sont un peu dans les zones grises, si c'est immoral, fais attention parce que tôt ou tard, le jour où si tu as des ambitions de grossir, ça risque de te retomber dessus et ça peut faire vraiment très très mal. Bien, maintenant parlons un peu de la bourse. Alors on va rester un peu sur le thème aussi du karma. J'ai une copine investisseuse qui personnellement, tout l'été, n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait acheter des obligations chinoises. C'est quelque chose qu'elle me disait à peu près tous les week-ends où on se voyait. Je me suis dit, ok, bon, c'est une investisseuse, elle est comme moi, elle doit s'y connaître. Et au moment où tu demandes qui c'est qu'elle a suivi comme formateur, en fait, elle suivait juste des vidéos sur YouTube. En fait, elle n'a pas été elle-même formée sur la bourse. Les obligations chinoises, alors déjà, j'ai une stratégie, moi, qui me permet... Alors, cette année, j'ai fait... fin septembre, je suis déjà à plus de 17% de rentabilité sur cette année. L'année n'est pas terminée. Et là, on me dit d'aller sur des obligations. Alors déjà, obligations, en ce moment, je n'y suis pas du tout. Et chinoises, en plus, bon, là, autant te dire que moi, ça m'a fait un peu tilt. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Et je me suis rendu compte après coup que, en fait, tout ce qu'elle faisait, c'est suivre un influenceur. Alors, j'ai pas le nom, parce que j'ai entendu dire à plusieurs personnes que je suis c'était certains influenceurs qui donnaient cette info. Oui, il faut acheter des obligations chinoises, c'est le moment et tout ça. En fait, ils réfléchissent de façon rationnelle. Donc, ma copine investisseuse... quand je lui ai demandé pourquoi, elle me donnait que des raisons rationnelles. Mais il faut que tu saches que le marché est irrationnel déjà de base. Ok, alors là, je te fais une toute petite aparté. Après enregistrement du podcast, j'ai fait mes petites recherches sur qui c'est qui parlait d'obligations chinoises. Et en fait, c'est quelqu'un d'assez connu. Il s'agit de Charles Gave. Alors, c'est pas un formateur, mais en tout cas, s'il a une formation, je ne suis pas au courant. Et en gros, lui, il est plutôt dans la catégorie des catastrophistes. Donc, en gros, il te dit d'acheter de l'or et des obligations chinoises. Je suis tombé sur cette vidéo-là. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, fais attention surtout à ces catastrophistes. En fait, c'est des vidéos, en fait, j'en vois plein. Une fois que tu auras la vidéo de Charles Gab, c'est simple, tu vas tomber automatiquement sur YouTube sur d'autres vidéos de d'autres personnes comme lui, en fait, qui t'annoncent les crises, ce genre de choses et tout ça. Donc, en fait, il y a deux profils. Soit tu te laisses influencer par ce style de personne, tu achètes de l'or, tu économises, tu mets tout de côté. Mais le petit souci, moi, que j'ai avec ça, c'est que tu n'évolues pas. Donc, dans le pire des cas, même s'il y a une crise, en fait, c'est soit tu mets tout de côté, ben, c'est bien, tu seras un minimum protégé et encore. Ou alors, tu décides de te battre, d'avoir des revenus là maintenant. Et même s'il y a une crise, eh ben, tu seras pas le premier touché. Les premiers qui seront touchés, c'est comme d'habitude, c'est la classe moyenne, voire la classe pauvre qui sera touchée en premier. Donc moi, je me dis que je préfère avoir un maximum de revenus, un maximum de choses maintenant, parce que si je coule, eh ben, avant moi, il y en aura vraiment beaucoup qui auront coulé. Donc voilà, c'est deux stratégies différentes. Soit tu te mets en mode protection, soit en mode attaque. Et moi, je suis plus du mode attaque parce que je me dis, ben, dans le pire des cas, eh ben, si ça se crache, j'y pourrai rien et ce sera tout. Plutôt que de me dire, c'est bon, je garde tout et je me mets tout dans un coffre-fort. Et puis voilà, après, on prend les couteaux et on se met dans les fourches à foutre le feu à l'état dans la rue. Enfin bon, voilà. Avant d'arriver là, hein. Si ça arrive jamais, en fait, au final, t'as passé ta vie à te protéger pour rien. Voilà, la petite aparté est terminée, on continue le podcast. Alors, en plus, si c'est pour tes obligations dans un pays communiste, autant te dire que moi, je n'y vais pas du tout. Alors, cela étant dit, au fur et à mesure des week-ends, elle n'arrête pas de me targuer avec ça. Obligation, obligation chinoise, vas-y, ouais, c'est le moment de le faire et tout ça. J'ai d'accord. Je lui pose quelques questions aussi sur d'autres thèmes comme l'immobilier, étant donné que c'est un peu mon domaine. Elle me dit d'acheter des terres agricoles et de partir à l'étranger. J'ai dit d'accord, mais oui, parce que tes terres, avec le réchauffement climatique, vaudront plus cher et tout. Alors là, c'est vraiment. Là, je me suis dit, ok, bon. C'est pas forcément de quoi elle parle. Sa stratégie, c'est pas du tout la même. Et même si je l'adoptais, en fait, je ne gagnerais rien avant 20-30 ans. Et ce n'est pas sûr pour moi. Ce n'est pas quand tu achètes un terrain et que tu attends. Ce n'est pas de l'investissement. Écoute-moi bien, c'est de la spéculation. C'est comme la bourse. Donc, le fameux de l'histoire, c'est que après m'avoir dit ça, le dernier week-end où elle m'en a parlé, 4-5 jours après, les obligations chinoises se sont complètement effondrées et certaines personnes ont fini complètement ruinées. Donc, je pense qu'elle a dû voir je ne sais pas si elle avait vraiment mis son argent là-dedans. Je n'espère pas. Il faudra que je lui pose la question. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont été ruinées. Et quand c'est comme ça, le pire, c'est que quand c'est toi qui dis à des personnes d'investir, elles suivent ce que tu dis et elles le font et après elles perdent tout. Tu as quand même une toute petite part de responsabilité, sachant que de nos jours, les gens ne veulent plus être responsables. Par conséquent, ils vont répercuter la responsabilité sur toi et du coup, après, tu risques d'être en porte-à-faux. Donc voilà pourquoi moi, aujourd'hui, maintenant, je ne conseille plus personne. Je dis juste ce que je fais, mais je ne dis pas forcément aux gens de me suivre. Je leur donne mes résultats, je leur dis, moi, je fais ça comme ça. Si j'étais à ta place, si vraiment il me pose la question, je dirais ok, bah à ta place, moi j'irai plus vers cet itinéraire ou vers là, mais je ne donne plus jamais de conseils. Bon, évidemment, moi j'ai été formé, donc je n'ai pas eu ce souci, je n'ai pas mis un centime là-dedans. J'ai regardé les screens, je voyais pas du tout pourquoi en fait les gens allaient là-dessus. Et tout ça pour dire que fais attention à la hype. La mode, en fait, tu vois, t'as la mode de l'IA, avant ça, t'avais la mode des cryptos. Attention, la hype, c'est quelque chose que tout le monde. La mode, en fait, c'est le truc que tout le monde fait à un instant T, tout le monde va y aller, ça te fait un bull run, après ça s'écrase. Et comme d'habitude, la majorité des gens ne gagnent pas d'argent. Donc quand on te conseille quelque chose, premier truc que tu demandes à cette personne, tu dis, ok, qui c'est qui t'a formé? Si elle m'avait dit, ok, ben, j'étais formé à la bourse par un tel, telle personne, alors là, attention, regarde bien qui sont les personnes, qui sont les formateurs, parce que là aussi, c'est pareil. Tu as beaucoup de formateurs en bourse, je vois, ils n'ont pas du tout la phraséologie de la bourse, ils n'ont pas du tout le. Enfin, tu vois qu'ils ont appris ça sur des versions gratuites ou dans des livres, des trucs comme ça, mais. C'est vraiment de la merde, voilà. Quand tu vois des mecs qui viennent de nulle part, qui ont commencé à investir dans l'immobilier, qui ensuite ont mis leur argent en bourse. Alors, je critique pas, c'est ce que j'ai fait. Mais la façon dont ils font, en fait, ils font ça en amateur. Ils ont ah, ça marche bien, ça marche pas trop bien. Et ensuite, ils vont te faire une formation dessus. C'est comme ceux qui te disent là, ok, bon, ben, faites des trucs à dividendes et tout. Mais moi, c'est le dernier truc que je ferai. Faire des dividendes. Tout ça, pourquoi? Pour après remettre ton argent au même endroit. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un frottement fiscal. Je t'invite à éviter tout ce qui est frottement fiscal parce que tu vas payer des impôts. Si tu prends par exemple des ETF, les ETF c'est très bien, mais il vaut mieux comment dire, les ETF, il vaut mieux prendre un capitalisant plutôt qu'un distribuant. Alors si tu connais pas, tu as. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un ETF? Bon, je pense que j'ai surtout des investisseurs, donc je vais aller très vite. C'est un panier d'actions ou d'obligations. Bon, moi je parle surtout d'un panier d'actions. Imaginons le SP500, ce sont les 500 plus grandes entreprises américaines, CAC 40, les 40 plus grandes entreprises en France. Ok? Voilà, le point est fait, tu achètes cet indice, ça te permet de ne pas faire faillite, d'être diversifié. Tout ça c'est très bien, mais les gens se disent je vais prendre quelque chose pour avoir des loyers. Moi aussi, je pensais au début que c'est ce qu'il fallait faire, prendre un truc avec des dividendes, comme ça tu as l'impression d'avoir des loyers et tout ça. Mais après, cet argent, si c'est pour le remettre au même endroit, tout ce que tu fais, c'est payer plus d'impôts. Donc voilà, le petit point est fait sur ça. Je te déconseille de faire ça. Alors, je ne vise personne. Il y a des formations qui tiennent la route, mais alors par exemple, un autre podcast qui est très connu, comment il s'appelle là-dessus, des Gentlemen Investisseurs, ils ont un truc sur les ETF. Faire cette formation, c'est mieux que de ne rien faire, mais attention, si vous voulez un vrai formateur, quelqu'un qui sort de la bourse, autant prendre le formateur qui a formé ces formateurs-là. Donc, comme je te dis, Tammy Cabbage et Cédric Froment, tu vois, il y a de grandes chances que l'une de ces deux personnes soit les professeurs des gentlemen investisseurs sur la bourse. Donc, quitte à choisir, si tu as un mentor, si tu peux trouver le mentor de ton mentor, ben, ça peut être encore mieux. Alors oui, les formations sont peut-être un peu plus chères. Mais évidemment, si tu as moins d'argent, tu peux prendre leur formation. Ce sera beaucoup mieux que de rien faire. Et oui, tu gagneras de l'argent. Mais je connais leur stratégie. Donc, quand je vois qu'ils se font du 10% à l'année, voire du 9%, qu'ils ont un portefeuille diversifié et tout ça. Alors attention, suivant les personnes, ce sera différent. Mais moi, je sais que la stratégie que j'utilise, c'est vraiment du 20-80. Un portefeuille que je rééquilibre qu'une fois par mois, mais avec une stratégie beaucoup moins diversifiée, mais qui me ramène du 20% à l'année et qui est encore plus sécuritaire. Donc il faut que tu saches juste que ça existe, et si tu veux savoir moi qui est mon formateur, c'est Tammy Cabbage. Donc la prochaine fois que quelqu'un te dit je vais faire tel investissement ou tel investissement, tu demandes où c'est qu'il s'est formé, et tu vas très vite voir si c'est un clampin ou pas. Et du coup, dans ce cas-là, les obligations chinoises, bizarrement, tout le monde, enfin, beaucoup de personnes ont tout perdu pour rien, quoi. Voilà. Donc, attention à la hype et payez-vous plutôt une formation que prendre du tout gratuit pour ensuite investir. Ce sera beaucoup mieux. Croyez-moi, l'argent, vous allez très vite le retrouver. Il vaut mieux se payer une bonne formation et mettre son argent et savoir ce que l'on fait plutôt que regarder des vidéos YouTube, ensuite mettre son argent et dire, ah, t'es, à cause de toi, j'ai perdu tout mon fric. Vous êtes les seuls responsables de votre argent. Il ne peut y avoir personne d'autre. Même s'il y a des conseillers et trucs comme ça, ne faites pas confiance. Votre argent, il n'y a que vous qui puissiez bien vous en occuper. Bien, avant de terminer ce podcast, alors comme tu peux le constater, déjà les formats sont beaucoup plus courts que d'habitude, mais bon, c'est normal, c'est parce que je suis à temps plein. Je vais te parler d'une petite histoire qui m'est arrivée la semaine dernière concernant un bien que j'ai en copropriété. Alors, quand t'es pas au courant, mon parc immobilier, c'est que des immeubles et des maisons pour être en monopropriété. Et j'ai acheté un seul appartement en copropriété pour voir en gros ce que ça faisait d'être en copro, histoire de connaître un peu. Au final, tout ça pour dire que maintenant j'ai dans l'idée de racheter tous les appartements un par un pour être tranquille dans l'immeuble et être tout seul. Donc on va dire que c'est le karma mais inversé du coup. Parce que je m'entends très bien avec les personnes. Si tu veux, tu as trois propriétaires, dont deux qui sont de la même famille, qui sont largement majoritaires dans la copro, qui ont les trois quarts des appartements.
Et dès qu'il y a un appartement qui se vend, ils veulent soit que ce soit eux qui le rachètent, soit c'est moi. Voilà, ils sont tous mis d'accord. Si je veux le racheter, ils me le laissent. Et si je ne suis pas en capacité d'acheter ou si je suis sur un autre projet, ils l'achèteront eux-mêmes et ensuite ils me le revendront plus tard. Donc comme quoi, se faire des amis, parfois, ça peut être utile. Au-delà de tout ça, je voulais te parler de la dernière réunion que j'ai faite avec eux, qui était un peu lunaire pour moi. Nous avons fait passer tout ce qui est DTG, enfin, toutes les choses en gros pour l'EDPE, pour savoir quels travaux il y a à effectuer avant de rénover les biens, pour avoir une meilleure lettre et tout ça. Alors ma position, moi, c'est que les lettres, je m'en contrebalance, mais complet, parce que je sais que les appartements que j'ai, ce sont généralement les plus beaux, les meilleurs, les mieux équipés. Dans toute la copro, en tout cas, le retour que j'ai eu, c'est que après que le mec du DPE a fait chaque appartement un par un, le meilleur appartement, c'était le mien. Et je me dis que si moi c'était le meilleur appartement et que les autres c'était vraiment, il y a du classé, il y en a qui sont classés G. Enfin, je sais que les autres vraiment, ils s'occupent pas du tout des locataires et je comprends pourquoi ils n'ont pas du tout la même vision que moi par rapport aux locataires. En fait, ils s'en foutent complètement. Quand moi je fais en sorte à ce que le mec soit bien, eux c'est simple, ils achètent le bien, ils mettent un coup de peinture et pour eux c'est neuf. Bon, autant te dire que les meilleurs locataires, ben, c'est moi qui me les chope. Hein. Après, tout ce qu'ils ont, c'est des impayés, ce genre de choses. Donc, retiens bien un truc, c'est appartement pourri, locataire pourri. Donc, voilà pourquoi, moi, à chaque fois que j'arrive, c'est simple, tous les gens me disent, mais putain, vous êtes tout seul, il y a vraiment que vous. Donc, bref, pour te parler de la petite réunion, donc on avait le professionnel du DPE qui était là, celui qui était passé dans chaque appartement, qui avait fait tout l'immeuble. Donc on devait statuer sur les travaux qu'il y avait à effectuer. Donc en gros, on a la toiture à refaire, l'isolation par l'extérieur et l'électricité. Okay? Donc l'électricité, pour nous, c'est une priorité parce que c'est des années 1965, si ma mémoire est bonne. Donc ces trucs, il n'y a pas de prise de terre, ce genre de choses. Donc priorité numéro une, la sécurité. Et ensuite, nous avons cette histoire de lettres qui vient en second temps, où nous avons par exemple le président de la copro qui, lui, a son appartement, enfin l'un de ses apparts, classé G. Donc ça veut dire éventuellement, enfin éventuellement, ouais, je vais dire quand même éventuellement, parce que d'ici là que les règles changent, enfin d'ici là que le logiciel du DPE change, ça peut être différent, mais officiellement, il ne pourra bientôt plus louer son appartement. Et s'il est déjà loué, il ne pourra plus augmenter les loyers. Ok, jusqu'ici, on est d'accord. Le mec du DPE, en gros, il a dit, bah, écoutez, vous mettez une pompe à chaleur, donc en gros, pour avoir du froid. En gros, c'est juste une clim. Et vous passez de G à D. Donc en fait, ce truc-là, cet appartement, reste insalubre, mais t'es classé D et t'as le droit de faire ce que tu veux. Alors que moi, j'ai mon appartement refait à neuf, meublé, il y a la télé, il y a tout, cuisine équipée, enfin vraiment le dernier cri, je vais être moins bien classé que lui. Et en plus, surtout sur les appartements petits, parce que là, étant donné que c'est un studio, automatiquement, t'es mal classé. Donc vraiment, on marche complètement sur la tête. Et durant toute la réunion, tout ce qui intéressait les propriétaires, alors à part deux propriétaires, c'était oui, mais attendez, comment est-ce qu'on fait pour avoir la meilleure lettre? Alors là, c'est là que tu comprends que si tout le monde est câblé comme ça, tu te dis que c'est vraiment n'importe quoi, parce que tout le monde va s'exciter pour une lettre, alors qu'il pense à aucun moment au confort du locataire. Donc tout le long de la réunion, bon, ben, j'ai un peu halluciné, donc je ne disais rien. Je vous laissais connaître en fait la vie un peu de tout le monde. Et quand le président de la copro a vu que je ne parlais pas, sur la fin, il me dit, bon, mais vous, exprimez-vous, dites-moi ce que vous pensez. Je leur ai dit texto que les lettres, je n'en avais strictement rien à foutre. Tout ce que je voulais, c'est que mon locataire soit en sécurité et soit bien dans l'appartement. On peut me donner une lettre du style G. Bon, je sais que je ne l'aurai pas, mais on peut me donner imaginons qu'il change le logiciel, il me dit, ok, maintenant, t'es classé G. Bizarrement, les locataires, ils iront dans mes appartements et pas dans les leurs, en priorité. Et pour la même superficie, je loue 70 euros plus cher que les autres appartements, juste parce que ils sont plus jolis et tout équipés. Mais ça, c'est les gens ne comprennent pas en fait. C'est si tu veux, ils ont mis leur argent. La plupart des propriétaires, c'est là où je me rends compte en fait. Ça me permet en fait, si tu veux, d'avoir de voir l'effet mouton, de voir ce que la majorité des gens pensent et ce que la majorité des gens font. Pour moi, je vois l'immobilier comme un travail. Eux, ils voient ça comme un investissement, mais dont ils veulent pas du tout s'en occuper. Donc, bon, quelque part, ils n'ont pas forcément tort, mais si tu penses pas au bien-être de ton locataire, lui, il pensera pas à ton bien-être au niveau de tes finances. Plus tu apportes de valeur, c'est simple, plus tu récupéreras d'argent. Eux, ils achètent, parfois ils ont plein d'impayés, mais voilà, c'est un investissement et dans leur tête, ils ne peuvent pas en avoir autant qu'ils veulent parce que s'il y a autant d'impayés, autant de problèmes, pourquoi s'embêter avec la justice et tout ça? Alors que moi, de mon côté, alors, à part le local commercial dont je t'ai déjà parlé, j'ai zéro impayé, j'ai aucun problème. Ça roule et surtout en ce moment, le marché est tellement tendu que les profils sont tellement bien que ben, normalement, tu n'as aucune raison pour que tes appartements ne tournent pas bien. Donc au final, à la fin de cette réunion, tout le monde pensait à la lettre et tout ça. Moi, j'aurais dit, écoutez, je m'en fous, faites vos réparations pour qu'on soit en sécurité. Moi, la lettre, je m'en fous. Dans tous les cas, je louerai en premier. Et eux, tout ce qu'ils pensaient, c'est du coup, c'était mettre des pompes à chaleur pour légalement pouvoir louer tranquillement. Mais bon, en même temps, qui c'est qui va te dire quelque chose, hein? Le locataire chez nous, il ne te demande jamais le DPE. Je crois que ça m'est arrivé une seule fois pendant une visite. Ces gens-là, je les éjecte automatiquement parce que je me dis qu'ils vont être chiants. Mais nous, le marché est tellement tendu et pourtant, je suis en campagne. Hein? Je précise, je suis dans le sud-ouest au cas où tu ne le saurais pas. Et ici, on n'a aucun problème pour louer, on a de très bons dossiers et voilà, donc tout ça pour dire que occupe-toi juste de la santé de ton appartement, fais pas gaffe aux lettres, dans tous les cas, tu passeras au-dessus. Si tu fais de la qualité, tu auras des locataires de qualité. Je sais que je ne devrais pas dire ça, que c'est pas bien, mais bon, surtout que en plus je fais que de l'immobilier, c'est ma source de revenus principale, mais bon, voilà, je le dis quand même. Donc, en conclusion de tout ça, ben, administrativement, on est de plus en plus emmerdé. Donc, les DPE, la loi climat et tout ça, climat résilience, tu commences à connaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, bon, personnellement, j'ai les taxes qui explosent. Ça aussi, c'est sympa, taxes foncières, mais je me suis bien rattrapé sur les loyers. Donc, jusqu'ici, je n'ai pas à me plaindre. Par contre, pour déclarer tous les loyers dans les SCI, dans les trucs, ça, c'est vraiment que c'est vraiment hyper saoulant, surtout quand tu t'occupes pas forcément de savoir qui c'est qu'il y a dans tes appartements parce que tu fais gérer par agence. Donc si tu as déjà écouté l'un de mes anciens podcasts, moi il m'a fallu une journée entière pour déclarer chaque personne dans chaque logement en plus. C'était vraiment mal fait. Enfin, c'est pour les déclarations de loyer qu'on devait faire, je crois que c'était jusqu'à juillet, le dernier truc. Enfin, bon, bref, tu vois sûrement de quoi je parle. Les impôts, de toute façon, ils sont pas à jour. À part pour nous fliquer, je vois pas vraiment à quoi ça sert. Et voilà pourquoi je pense, moi, partir à l'étranger. Oui. Ah, il y a aussi une taxe, c'est la taxe Puma. C'est la taxe qu'on appelle la taxe des rentiers. C'est simple, si tu travailles pas ou que tu n'as pas de. Tu touches pas le chômage ou ce genre de choses. Tu ne cotises pas socialement, du coup tu as une taxe automatique. Voilà, je crois que c'est de 8 500 euros, un truc comme ça à la fin de l'année. Enfin, voilà, c'est pas une paille quoi. Attention à la taxe des rentiers, c'est la taxe Puma. Bon, avant d'en arriver là, c'est que déjà au moins tu vis de tes biens. Mais bon, il y a moyen de l'éviter. Il faut juste que tu te donnes 20 000 euros de dividendes à la fin de l'année. À 20 000 euros, bon, tu payes pas trop d'impôts et tu t'évites surtout cette fameuse taxe. Mais bon, apparemment. Immobilier, on n'est pas très fan, enfin au niveau du gouvernement. Évidemment, les Français adorent ça et le gouvernement se dit qu'il peut essayer de le taxer. Donc voilà pourquoi mes prochains projets, c'est de partir à l'étranger. Ça y est, pour moi, c'est décidé. Je commence vraiment à avoir ras le. Donc voilà pourquoi je pense. Alors, je vais pas m'expatrier. Je garde quand même ma résidence principale, mes sociétés ici en France. Mais si je peux avoir d'autres sociétés, avoir des passeports aussi à l'étranger, ce genre de choses, d'autres devises, au bout d'un moment, ben, on ne sait même plus comment te taxer. Donc mon prochain projet, ce serait vraiment d'être mondial. Voilà, bon, alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, Mais parce que là, je me rends compte qu'il faut vraiment que les pays que je vise, je dois tout réapprendre en fait. C'est comme si j'arrivais en France et que là, je dois apprendre les lois sur l'immobilier, ce genre de choses et tout. Et bon, le point positif, c'est que j'aurai beaucoup moins de contraintes, pardon, beaucoup moins de paperasse. Il n'y a pas de droit chez les locataires, ce genre de choses. Donc voilà. Donc je vais te donner ma stratégie. Alors, ma stratégie, elle est assez simple. C'est peut-être pas celle que je vais faire vraiment au final, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Je ne suis pas encore fixé sur les pays que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que je vais en faire plusieurs. Donc, mon projet, ce serait d'abord de me mettre à louer. Par exemple, je vais sur une île paradisiaque. J'en choisis une au hasard. Enfin, une au hasard. Une où je décide, je regarde les lois, que je puisse acheter quand même sur place. Comment est-ce que je peux faire pour avoir le financement? Je peux bien avoir un appartement sur place ou carrément une villa. Je me mets du coup à le louer à l'année. Je regarde aussi si je peux faire de la location courte durée. Alors, c'est pas du tout mon truc, la location courte durée, mais c'est histoire de me rembourser moi ma location pour que ça me fasse une opération blanche à minima. Et ensuite, ça me permet d'avoir des maisons à l'étranger et de pas payer du coup le logement en partant à l'étranger. C'est quelque chose que je pourrais reproduire ben, pratiquement à l'infini. Il faut que je trouve du coup les personnes sur place pour pouvoir gérer mes biens. Donc je loue, je sous-loue si c'est légal dans le pays. Du coup, je ne paie pas ma propre location. Et j'ai des logements, je peux avoir des logements du coup un peu partout dans le monde. Donc voilà, ça c'est la première idée, le premier jet. Rien n'est fixé, rien n'est fait. Et si je me mets vraiment à acheter, que je commence vraiment à cartonner, que je vois que j'ai un bon filon, étant donné que je ne suis pas très connu non plus sur les réseaux, je te mettrai au courant. Et puis si tu veux des conseils, évidemment, je te les donnerai gratuitement. Tu me contactes sur Insta et je te dirai bah, les erreurs que j'ai faites. Et en gros, les points positifs, les points négatifs. Donc si je peux t'ouvrir la voie, eh bien, ça me fera vraiment très plaisir. Et sur ce, je vais devoir te laisser parce que maintenant, je bosse pour des retraites que je n'aurai pas. Donc, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à Lokinvest.